Ça fait plaisir de vous revoir et de discuter autour de cette question avec vous. Covid-19, où est Dieu? Parce qu'en effet, nous traversons vraiment des temps de souffrance. Il y a la souffrance liée, bien sûr, au décès des personnes atteintes de la Covid. Il y a aussi la souffrance des liens familiaux qui sont distendus, puisque nous ne pouvons plus nous voir. En vrai, nous sommes obligés de nous voir par écran interposé. Cela est particulièrement difficile dans les familles lorsqu'il y a des enterrements ou des naissances, où là, le nombre de personnes qui peuvent accompagner ces événements est vraiment très limité. Nous pensons aussi aux souffrances engendrées par la perte d'emploi due à la crise économique. Et dans ces temps de souffrance, beaucoup de réflexions sont faites par des journalistes, à la télévision, par nos discussions avec nos amis. Certains artistes aussi mènent des réflexions par rapport au temps que nous traversons. Et j'aimerais simplement vous faire partager quelques extraits d'une chanson de Grand Corps Malade qu'il a écrite sur le virus. Ça s'appelle « Effet secondaire ». Je vous laisse découvrir seulement quelques extraits, puis ensuite on continuera la réflexion.
Ces temps confinés, on s'est posé un peu. Loin des courses effrénées, on a ouvert les yeux. Sur cette époque troublée, ça fait du bien parfois. Se remettre à penser, même si c'est pas par choix. Alors entre les cris d'enfants et le travail scolaire, entre les masques et les gants, entre peur et colère, voyant les dirigeants flipper dans leur confuse gestion, en ces temps confinés, on se pose des questions. Et si ce virus avait beaucoup d'autres vertus que celle de s'attaquer à nos poumons vulnérables? S'il essayait aussi de nous rendre la vue sur nos modes de vie devenus préjudiciables? Si on doit sauver nos vies en restant bien chez soi, on laisse enfin la terre récupérer ce qu'on lui a pris. La nature fait sa loi en reprenant ses droits, se vengeant de notre arrogance et de notre mépris. Ce monde des adultes est devenu si fébrile, l'ordre établi a explosé en éclats. Les terriens se rappellent qu'ils sont humains et fragiles, et se sentent peut-être l'heure de remettre tout à plat. Et si ce virus avait beaucoup d'autres pouvoirs que celui de s'attaquer à notre respiration? S'il essayait aussi de nous rendre la mémoire sur les valeurs oubliées derrière nos ambitions? Et si ce virus avait le don énorme de rappeler ce qui nous est vraiment essentiel? Les voyages, les sorties, l'argent ne sont plus la norme, et de nos fenêtres on réapprend à regarder le ciel.
De nos fenêtres on réapprend à regarder le ciel, et peut-être lorsque l'on regarde le ciel, on se pose la question: mais où est Dieu dans tout ça? Que fait-il? Pourquoi laisse-t-il cela se produire? Et devant tant de souffrances, aucune réponse toute faite ne sera satisfaisante. En fait, je n'ai pas la réponse à ces questions. Répondre à ces questions me paraîtrait présomptueux, et je ne suis pas certain même qu'une réponse à ces questions apportera la consolation. Mais la Bible nous apprend au moins trois choses par rapport à la question « Où est Dieu dans la catastrophe ?» Donc cet après-midi avec vous, j'aimerais vous proposer trois lieux, entre guillemets, où se trouve Dieu en cette période de Covid. Alors le premier lieu, entre guillemets, c'est au ciel. Le psaume numéro 115 au verset 3 nous dit « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut ». Cela peut paraître difficile, même peut-être cruel, mais je pense au contraire que cela est très rassurant. Il reste maître, il n'est pas surpris, il n'est pas dépassé, il reste au contrôle, il peut aussi mettre fin à cette épidémie. En fait, cela nous apporte du réconfort de savoir que Dieu est au ciel. Parce que si nous sommes dépassés, si nous ne savons pas, il y a au moins une personne qui sait. Corrie ten Boom, une Hollandaise qui a été enfermée dans un camp de travail pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que sa famille avait caché des Juifs, comparait sa vie à une broderie. Et quand on la voit d'un côté, on voit ceci. Mais quand on retourne, on voit cela. Et donc cette dame, Corrie ten Boom, a écrit ce poème. Ah, pardon, je suis allé trop vite. Elle a écrit donc ce poème. Ma vie n'est qu'un tissage entre mon Dieu et moi. Je ne choisis pas les couleurs, il travaille sans émoi. Si souvent, il tisse dans la souffrance. Et dans ma folle fierté, j'oublie qu'il voit le beau dessin et moi le mauvais côté. Pas avant que le tissage ne s'arrête et que la navette finisse de filer, Dieu ne déroulera la toile et les pourquoi viendra expliquer. Les fils noirs sont nécessaires dans la main habile du tisserand, comme le sont les fils d'or et d'argent dans le modèle qu'il a prévu auparavant. Nous ne comprenons pas cette crise, mais Dieu sait ce qu'il fait. Francis Schaeffer, un penseur chrétien du XXe siècle, avait l'habitude de dire, lorsque les souffrances traversent notre vie, nous ne devrions pas nous poser la question « Pourquoi Dieu autorise-t-il cela ?» mais plutôt « Puisque Dieu permet que cela arrive, comment dois-je alors vivre ?» Et pour ma part, cette crise m'interpelle au niveau de la solidarité. Comment je peux me montrer solidaire de mes contemporains dans la souffrance? Cela m'interpelle aussi pour la compassion. Comment faire preuve de compassion autour de moi alors que des situations difficiles sont en train de se produire? Et d'un point de vue plus personnel, plus intérieur, cette crise m'amène à l'humilité. Je me rends compte que l'humanité ne maîtrise pas grand-chose au final. Nous pensons organiser notre vie, nous pensons qu'avec nos assurances, avec nos protections, avec notre intelligence, avec notre science, avec notre savoir-faire, eh bien nous pourrons tout traverser et nous nous rendons compte en fait de notre grande fragilité. Et cela m'amène vraiment à être humble. Cette crise aussi m'apprend à dépendre de Dieu. Je peux remarquer que tout dépend de Dieu. Je peux avoir mes propres plans, mais finalement, du jour au lendemain, ils peuvent être très vite contrecarrés. Et cela m'appelle à trouver mon identité, c'est-à-dire ma définition en Dieu. Beaucoup de personnes se définissent à travers leurs expériences, leur statut social, leur richesse, mais nous nous rendons compte, dans ces temps de crise, que cela est très fragile. Si je me définis par rapport à mon statut social et que je me trouve en licenciement économique à cause de la crise, eh bien, qui suis-je alors si toute mon identité reposait là-dessus? Si je me définis en fonction de mes richesses, mais que mon entreprise fait faillite, qui suis-je alors? Si je me définis en fonction de mes expériences, de mes voyages, et que du jour au lendemain, je suis confiné, qui suis-je alors? Cela m'invite vraiment, cette crise m'invite à vraiment trouver ma définition, mon identité en Dieu. Je suis créé par Dieu, je suis aimé par Dieu, il m'a sauvé en Jésus-Christ, je deviens son enfant, et là-dessus, je peux vraiment construire une identité solide qui traversera toutes les crises. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, Jésus demande à ses auditeurs de ne pas s'inquiéter pour leur nourriture et leurs vêtements. Et il dit ceci, « Votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin. » Dieu est au ciel et il sait. Il sait ce dont nous avons besoin. Alors, si Dieu est au ciel, est-il pour autant distant, inaccessible, indifférent à nos souffrances? Bien sûr que non. Et le deuxième lieu, entre guillemets, que je vous propose cet après-midi, où est Dieu en cette période de coronavirus? Dieu se trouve, à l'hôpital, au sein des unités de réanimation Covid. La Bible nous dit « Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont un esprit abattu. » Paul Claudel, poète français, membre de l'Académie française au fin 19e, milieu du 20e, a écrit « Dieu n'est pas venu pour supprimer la souffrance, il n'est pas venu l'expliquer, mais il est venu la remplir de sa présence. » Et c'est ce qu'a témoigné plusieurs personnes qui sont passées par la maladie, et notamment Christian Blanc, pasteur et président du Conseil national des évangéliques de France, alors qu'il a été gravement atteint par le coronavirus. Les médecins avaient même prévenu sa femme qu'elle allait peut-être recevoir un coup de fil annonçant son départ. Et voilà ce qu'il dit, alors qu'il réfléchissait sur sa vie allongée sur son lit d'hôpital. Il écrit, mais c'est parce qu'il a témoigné de cela dans un article de journal. Les textes que j'ai médités longuement sont les versets du livre des Lamentations de Jérémie, qui, au milieu même de la détresse extrême à cause de la chute de Jérusalem, retrouve le courage et l'espoir en se rappelant les compassions toujours présentes, la bonté infinie et généreuse et la fidélité infaillible de Dieu. Je connaissais ces versets par cœur. Je les avais cités des centaines de fois. Mais en l'occurrence, sur mon lit d'hôpital, ces mots s'incarnaient dans ma vie. C'était comme si je touchais du doigt la compassion, la bonté et la fidélité divine. Ce n'étaient plus des points de doctrine, des réalités intellectuelles et spirituelles, mais c'était des vérités qui prenaient corps en moi. Dieu, mon Père, était là avec moi en réanimation, comme il était avec Joseph en prison. J'étais convaincu que je pouvais compter sur son amour et sa souveraineté. Cette confiance dans le Père céleste m'a permis de rester tranquille au milieu de la tempête et d'attendre calmement les jours meilleurs. J'ai pris davantage conscience qu'en pareilles circonstances, lorsque tout s'évanouit autour de nous, il ne nous reste que l'essentiel, c'est-à-dire Dieu, sa présence promise et les promesses de sa parole. En conclusion, je vous proposerai tout à l'heure d'écouter un chant du compositeur chrétien Stephen Curtis Chapman, qui a vécu un drame familial terrible il y a quelques années, ce n'était pas lié à la Covid, et il témoigne aussi, lui, qu'au cœur même de la souffrance, Dieu est présent. Dieu n'a jamais été, n'est pas et ne sera jamais indifférent à la souffrance humaine, et la preuve en est Jésus-Christ. Dieu s'est fait être humain. Dieu nous a rejoints dans notre humanité. Il peut alors comprendre, parce qu'il a lui-même expérimenté, notre souffrance humaine. Un verset de la Bible nous dit « Nous n'avons pas un grand prêtre, en parlant de Jésus-Christ, insensible à nos faiblesses. Il a été soumis sans péché à des épreuves en tout point semblables. » Il y a un auteur anglican évangélique a écrit ceci. S'il n'y avait pas eu la croix, jamais je n'aurais pu croire en Dieu. Le seul Dieu en qui je crois est celui que Nietzsche a tourné en dérision en le surnommant Dieu de la croix. Dans notre monde de souffrance, comment pourrais-je adorer un Dieu qui en aurait été exempt? Je suis entré maintes fois dans des temples bouddhistes en différents pays d'Asie. Et j'ai contemplé la statue de Bouddha, les jambes croisées, les mains jointes, les yeux fermés, l'esquisse d'un sourire sur les lèvres, l'air absent, totalement détaché des souffrances de ce monde. Alors, par la pensée, je revoyais cet homme abandonné sur une croix, meurtri, les mains et les pieds percés de clous, le dos lacéré, les membres écartelés, le sang, le front ensanglanté portant la marque d'une tresse d'épines, les lèvres desséchées traduisant une soif intolérable. Plongé dans la nuit la plus noire, celle de l'abandon par Dieu. Voilà le Dieu qu'il me fallait. Il a laissé de côté son immunité à la souffrance. Il est entré dans notre monde de chair et de sang, de larmes et de mort. Il a souffert pour nous. Et l'auteur franco-belge, Éric Emmanuel Schmitt, illustre cette idée du Dieu souffrant dans son roman qui a été mis en film, Oscar et la Dame Rose. Dans ce roman, Oscar est un jeune enfant qui souffre d'un cancer. Il reçoit la visite d'une Dame Rose, donc c'est une visiteuse d'hôpital, qui d'ailleurs se fait passer pour une ancienne catcheuse et puis entretient un dialogue avec lui. Et je vous propose de regarder un extrait de ce film qui illustre ce point du Dieu souffrant qui vient nous rejoindre.
Et si on allait voir Dieu?
Tu sais où il habite?
Non, bien sûr.
C'est là?
Tiens, c'est lui.
Oh non.
Si.
Mais non. Mon Pharos, toi qui étais catcheuse, toi qui étais grande championne, tu vas pas faire confiance à ça.
Pourquoi?
Il est aussi rachitique que moi.
Alors explique-moi, Oscar, tu préférerais un culturiste au mini-slip avantageux? De qui te sens-tu le plus proche? D'un dieu qui n'éprouve rien ou d'un dieu qui souffre?
Celui qui souffre, évidemment.
De qui pouvons-nous nous sentir le plus proche? D'un dieu qui n'éprouve rien ou d'un dieu qui souffre? Et ce petit garçon qui connaît la souffrance de près répond d'un dieu qui souffre, évidemment. Jésus n'est pas seulement venu pour compatir à nos souffrances physiques et morales, il est aussi venu guérir notre cœur et y habiter. Et le troisième lieu que je vous propose ce matin, où est Dieu en cette période de Covid-19? Eh bien, Dieu se trouve dans le cœur du croyant. Jean, chapitre 14, verset 23, nous dit, ce sont les paroles de Jésus, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » La première mission de Jésus était de nous réconcilier avec Dieu le Père. Nous qui sommes rebelles à lui, nous qui nous sommes définis par nous-mêmes, nous qui avons vécu à notre tête en ignorant Dieu, en négligeant sa création, il est venu prendre la condamnation que mérite notre rébellion contre lui, il est venu en payer le châtiment. C'est là tout le sens de sa crucifixion. Il est mort pour nous, à notre place, afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu le Père. Jésus est ensuite ressuscité, montrant sa puissance même sur la mort. Ainsi, tous ceux qui placent leur confiance en Jésus et qui acceptent de suivre les voies de Dieu se voient maintenant restaurés dans une relation d'amour avec Dieu. Et comme le dit le verset, Dieu vient habiter dans le cœur des croyants dès maintenant et pour l'éternité. Et quand Dieu vient habiter dans le cœur du croyant, il y dépose sa paix pour traverser les difficultés, mais aussi la perspective de la vie éternelle grâce à sa résurrection, une perspective débarrassée de toute souffrance. Alors, où est Dieu? Eh bien, il est au ciel et il dirige toutes choses. Il est dans les hôpitaux, au chevet de ceux qui souffrent, et il est dans le cœur des croyants, leur apportant la paix et une perspective de vie éternelle. Peut-être que vous avez envie cet après-midi d'ouvrir votre cœur à Dieu. Et je vous proposerai alors, après l'écoute de cette chanson de Stephen Curtis Chapman, de formuler une prière. Je vous propose donc maintenant l'écoute de cette chanson « Jesus will meet you there ».
When you think you've hit the bottom, and the bottom gives way, and you fall into darkness no words can explain. You don't know how you make it out alive. Jesus will meet you there. When the doctor says, I'm sorry, we don't know what else to do. And you're looking at your family, wondering how they'll make it through. Whatever road this life takes you down, Jesus will meet you there. He knows the way to wherever you are. He knows the way to the depths of your heart. He knows the way, 'cause he's already been where you're going. Jesus will meet you there. Thank you. jury says guilty and the prison doors close. The one you love says nothing, but just packs up and goes. When sunlight comes and your world's still dark, Jesus will meet you there. When you failed again and all second chances have been used, and the heavy weight of guilt and shame is crushing down on you, and all you have is one last cry for help, Jesus will meet you there. He knows the way to wherever you are. He knows the way to the depths of your heart. He knows the way, 'cause he's already been where you're going. When you realize the dreams you've had, your child won't come true, and when the phone rings in the middle of the night with tragic news, whatever valley you must walk through, Jesus will meet you there. He will meet you there. Jesus will meet you there.
Je vous propose de prier. Notre Père, toi qui es au ciel, tu es aussi celui qui vient nous rencontrer là où nous sommes. Merci parce que tu es aussi proche de nous. Merci pour cela. Merci parce que tu veux encore plus, tu veux venir habiter dans notre cœur. Et cet après-midi, je t'ouvre mon cœur pour te recevoir. Viens habiter en moi, viens diriger ma vie. Je ne désire plus vivre loin de toi, en dehors de tes voies. Je crois que Jésus a pris la condamnation de mes fautes et je l'en remercie infiniment pour cela. Amen.